Oui, cette spéciale Cannes, deuxième partie tout de suite avec un coup de projecteur sur le cinéma asiatique, bien présent cette année encore ici à Cannes. On est ensemble jusqu'à 13h30, bienvenue à tous. Table à Cannes, la suite à 13h15, la séquence des critiques menée par Michel Simon en dialogue aujourd'hui avec le journaliste Wang Muyan, correspondant à Paris du magazine Elle Mène. L'Asie, une nouvelle fois invitée d'honneur du Festival de Cannes avec 7 films en sélection officielle, dont ceux du chinois Jia Zhangke et celui du japonais Hirokazu Koreeda. L'un comme l'autre, ils portent un regard critique sur le monde qui les entoure, questionnent la modernité, la Chine des campagnes d'un côté, chez Jia Zhangke, l'urbanité à la marge dans le Japon de Koreeda, et dans ce monde désuni, ce qui fait lien, la famille, le couple ou encore les gangs. Dans Une affaire de famille, film en compétition, Koreeda, prix du jury pour Tel père, tel fils il y a 5 ans, réalisateur de Nobody Knows et de Notre petite sœur, met en scène cette fois une famille composite et recomposée au gré des circonstances de la vie et nous parle de la famille qu'on se choisit à travers la figure d'une petite fille livrée à elle-même, maltraitée par ses parents biologiques qu'il recueille. Un cinéma délicat, poétique, qui nous emporte, rencontre pour commencer avec le réalisateur japonais de passage à Cannes. Cinquième sélection officielle à Cannes depuis distance. Vous êtes un habitué du festival, comme on dit, monsieur Koreeda. Bonjour.
Bonjour.
Une affaire de famille, ce titre évoque à la fois le business familial, les petites combines développées par chacun pour survivre avec peu ou avec rien, mais c'est un titre qui évoque aussi le noyau familial. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans nos vies, de nos vies au sein d'une famille, Koreeda ?
C'est justement pour répondre à cette question que je réalise des films, je crois. En tout cas, mes films ne cessent de s'interroger sur cette question que vous me posez. Qu'est-ce que la famille ? Pour moi, c'est difficile d'y répondre. En tout cas, je sais que en tant qu'individu, j'ai évolué au cours de ma vie. J'ai traversé un certain nombre d'étapes, d'épreuves. J'ai perdu mes parents. Je n'étais donc à ce moment-là l'enfant de personne. Je suis à mon tour devenu père. J'ai eu un enfant. La femme qui était à mes côtés est devenue mère à son tour. Et je crois que c'est cette succession de pertes qui engendre quelque part. Perdre un proche nous fait peut-être, nous, accéder à un nouveau statut au sein de cette famille. Et pour moi, la famille, c'est quelque part ce contenant, on va dire, qui se transmet de génération en génération et qui fait qu'on passe d'un statut à un autre. Je crois que la famille, c'est le lieu de ça qui permet ça, en tout cas.
Vous nous montrez, M. Koreeda, un Japon à la marge ou de la marge. Une société de la débrouille où chacun cherche à trouver aussi sa place en n'ayant pas beaucoup. Est-ce que pour vous, la solidarité qui se manifeste dans cette famille que vous recomposez à l'écran, dans Une affaire de famille, est-ce que pour vous, la solidarité reste une valeur centrale de nos sociétés à laquelle trop souvent on tourne le dos ?
Je pense effectivement que la solidarité est une valeur fondamentale et je crois que ce film, à travers ces personnages, nous interroge un peu, nous aussi, sur notre perception des choses et de cette capacité qu'on peut ou non avoir à s'aider. C'est une famille, en effet, qui est constituée de personnages, d'individus qui ont tous plus ou moins commis un crime ou un délit. Et pour autant, temps, ils réussissent, eux, à tisser entre eux un lien, à instaurer une générosité, une chaleur. Et je crois que pour le spectateur, ça engendre un sentiment un peu contradictoire, puisque à la fois, ils réussissent à obtenir, à mettre en place quelque chose que nous, on a peut-être tendance à perdre, et en même temps, un crime reste un crime, et pour ça, ils devraient, ils mériteraient d'être jugés. Donc, je pense que c'est ce regard un peu double, un peu duel, qui m'intéressait et que j'avais envie de susciter.
Oui, parce que, en même temps, c'est une famille où ils sont tous un peu hors la loi. Ils commettent tous des petits larcins ou ont commis des délits ou des crimes plus importants avant. Ça, on le découvre au fur et à mesure. Et en même temps, ils vivent tous avec des vrais principes, des règles. C'est aussi ça qui les lie. Comme pour Nobody Knows, vous vous inspirez, je crois, d'une histoire vraie pour ce film, Une affaire de famille. Cette situation des familles qui touchent la pension de retraite de leurs parents qui étaient morts depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ? Dans ce fait divers.
実際には映画の中には、
Il y a effectivement eu un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique au Japon d'enfants qui continuent à profiter de la pension de retraite de leurs parents alors même qu'ils étaient morts en effet depuis un certain temps. Il y a eu une affaire en particulier qui avait été assez médiatisée et dans laquelle le coupable, on va dire, de cette arnaque, on va dire, à la retraite, avait dit qu'elle avait laissé sa mère allongée dans son lit, dans la chambre d'à côté, pendant un certain temps, et que quand l'affaire avait été révélée au grand jour, la première chose qu'elle avait dit, c'était « mais j'avais pas envie de croire qu'elle était morte ». Et je crois que la première réaction, la réaction spontanée qu'on peut avoir, c'est « mais c'est pas possible, un mensonge pareil, évidemment que l'intention, c'était de continuer à gagner de l'argent, et non pas le regret qu'on peut avoir de perdre sa mère ». Et en même temps, je comprenais, je crois quelque part, ou en tout cas j'ai eu envie de comprendre et j'ai envie de creuser derrière cette réflexion, cette émotion que la personne avait exprimée en disant que sa mère était partie et qu'elle n'avait pas envie de l'admettre. Et c'est, je crois, le point de départ, un des points d'entrée dans le film qui m'a donné envie de réaliser ce film.
Derrière la douceur apparente de votre film, Corrida, le propos que vous tenez dans ce film est assez dur à l'encontre de la société japonaise, à l'encontre de nos sociétés. Est-ce que le cinéma que vous faites, c'est-à-dire un cinéma qui nous ouvre les yeux avec douceur, avec délicatesse et sans nous brusquer, sans nous brutaliser, correspond à ce cinéma que vous aimez ?
そうですね。そう届いてるのであればうまくいったんだと思いますけれども、
Effectivement, c'est une approche, un procédé que j'apprécie. En tout cas, j'aime bien cette façon de faire. Et en même temps, pour ce film-ci, en l'occurrence, j'ai été secondée par un chef opérateur qui s'appelle Monsieur Kondo. Et c'est lui qui m'a fait cette proposition de dire, voilà, ce film est un film réaliste, un film qui parle du réel. Et en même temps, j'aimerais pouvoir y insuffler une note de poésie. J'aimerais donner une dimension non pas fantastique, mais en tout cas qui donne une couleur, une tonalité supplémentaire au réel. On a travaillé à la fois le cadre, les lumières, les couleurs, le décor en fonction de sa proposition. Donc il a joué un rôle déterminant dans l'esthétique du film et dans l'approche du film.
Une affaire de famille est un film sur la famille. Et en même temps, on a le sentiment que vous appelez à redéfinir ce qu'est la famille, y compris peut-être dans les cinémas. Quelle est vous, Monsieur Corrida, votre famille de cinéma ?
それはもう一方的に自分がファンの監督の名前を並べることになってしまいますけれども、特に今回のような作品の場合だと、
je vais vous faire une réponse qui sera ni plus ni moins la liste des réalisateurs dont je suis fan à titre personnel, mais pour ce film-ci et puis plus largement, parce que je suis très admiratif de son travail, je citerai Ken Loach en premier lieu, et puis en second lieu le réalisateur taïwanais Hu Hsiao-hsien, pour qui j'ai aussi une admiration sans bornes, et même si on n'a pas de lien de parenté, de lien de sang, je considère vraiment appartenir à sa famille de cinéma.
je citerai juste tel père, tel fils, mais là encore, dans une affaire de famille, il y a une notion qui est très importante pour vous, c'est celle de la vérité. Avec vous, on apprend à se méfier de ce qu'on voit à l'écran. Vous nous apprenez que la vérité est souvent ailleurs et qu'il faut creuser pour la découvrir. Est-ce que pour vous, Monsieur Koreeda, le cinéma est avant tout un art des apparences ?
でも映画監督の仕事ってそういう仕事だと思います。そういう役割を何か世界に対して。
Mais je crois que c'est justement le rôle d'un réalisateur, que c'est le travail même du réalisateur, du cinéaste. Je dis pas que être réalisateur ça a un rôle, une fonction importante dans le monde, mais en tout cas je crois que notre rôle c'est un peu de se poser la question, justement de s'interroger sur ce que c'est que la vérité, là en l'occurrence, voilà, peut-être chercher en dehors des apparences comme vous le dites, et puis continuer d'interroger pour essayer justement de s'approcher au maximum de ce qui pourrait être la vérité, en effet.
Il
y a un autre film pour moi qui s'inscrit un peu dans la veine de celui-ci, c'est Nobody Knows, parce que en l'occurrence, quand l'affaire avait éclaté au grand jour au Japon, évidemment, tout ce qu'on disait sur ses enfants, c'était que ce qui leur arrivait était terrible, que la vie qu'ils avaient vécue était un enfer. Et de la même manière, la famille dont on parle là dans une affaire de famille, c'est donc quand même plusieurs criminels quelque part qui sont passibles, voilà, d'un certain nombre de condamnations, à commencer par l'enlèvement, la dissimulation de cadavres, le vol. Voilà, il y a quand même beaucoup de peines dont ils sont, enfin, d'accusations dont ils sont passibles. Et en même temps, j'avais envie de montrer autre chose que ces faits, cet objectif, voilà, de pouvoir aller un peu au-delà, on va dire, de ces apparences.
Il y a un proverbe français qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Vous êtes d'accord avec cela ?
Je ne connaissais pas cette expression. Je crois que je suis à peu près d'accord avec le fond. Mais de mon côté, j'évite toujours d'utiliser le terme vérité, parce que j'ai le sentiment que dès lors qu'on a le sentiment de détenir la vérité, on se trompe déjà. Et donc, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le cinéma ou même à l'intérieur d'une famille, je crois que la vérité, c'est un petit peu risqué. Donc, de mon côté, j'évite en tout cas d'utiliser... Le mot.
Merci beaucoup, Monsieur Koreeda.
Merci beaucoup.
Rencontre avec le réalisateur japonais Koreeda ici à Cannes à l'occasion de la projection et présentation de son film en compétition officielle, Une affaire de famille. Puis nos critiques de la deuxième partie de cette grande table nous ont déjà rejoints dans ce studio. On va en profiter pour leur demander leur avis sur ce film. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Et bonjour à vous Wang Muyan, merci bonjour. D'être avec nous. Alors ce sera peut-être... plus simple qu'il n'y paraît. En tout cas, c'est pas un film qui semble vous diviser. Pas de grand débat. 3 étoiles, l'un et l'autre. Voilà ce que vous avez remis. Ainsi avez-vous noté cette affaire de famille de Koreeda dans la revue Screen spéciale Festival de Cannes. Michel Simon.
Oui, alors c'est le film, à ma grande surprise, qui est en tête de Screen International, où il y a 10 critiques étrangers qui donnent des cotes. Je trouve que c'est un joli film. C'est-à-dire Koreeda est un cinéaste prolifique. On a vu récemment à Paris un film judiciaire pas très bon. Et je pense que c'est un de ses meilleurs films. D'ailleurs, lui-même cite Nobody Knows comme un ancêtre de ce film-là, et il a raison. Alors, c'est un peu une version soft de Oliver Twist de Dickens. Alors, évidemment, chez Dickens, c'est mordant, c'est cruel, etc. Là, c'est beaucoup plus soft. Parce que cette
histoire. On a évoqué aussi la figure de Cosette pour cette
voilà,
petite fille.
Voilà, alors tous ces gens qui volent dans les supermarchés, etc. C'est un film, c'est un miniaturiste, Koreeda. Donc il fait des films sur des scènes, effectivement, de famille. C'est une sorte de Ozu, mais sans la rigueur formelle de Ozu, mais avec beaucoup d'intention, beaucoup d'humour. C'est le temps qui passe, c'est l'érosion des choses. Et il y a quelque chose d'une vibration incontestable dans ce film qui est certainement un de ses meilleurs.
Bon, lui fait un clin d'œil à Ken Loach, l'un de ses réalisateurs.
Ken Loach, je vois pas tellement le rapport, mais enfin bon. Ça, c'est le choix du metteur en scène.
Votre point de vue Wang Muyan sur ce film.
Je pense que c'est un très beau film qui enquête le sens de la famille dans notre temps moderne. Quels sont les sentiments qui nous lient, même si on n'a pas vraiment de lien du sang. Et c'est un très beau portrait sur la société contemporaine du Japon, même s'il ne met pas tellement en avant le côté social comme les film de Ken Loach, mais il met plutôt en avant les sentiments et la sensibilité, les rapports des gens. Voilà, je trouve que c'est un très beau film, surtout la première partie, qui a une sensibilité à fleur de peau.
C'est quand même un film qui nous montre le Japon des villes, mais à la marge, hein, par ceux qui sont les exclus, qui vivent à côté et dans un tout un système de débrouille qui est assez intrigant dans cette famille où chacun quand même s'arrange un tout petit peu avec la loi et avec les règles pour pouvoir survivre. On va quitter le Japon pour partir chez vous, Wang Muyan, en Chine, avec un autre film, Les Éternels, du réalisateur Jia Zhangke. Tout d'abord, France Culture, il est 13h11.
France Culture.
Local au circo.
La grande table en direct du Palais des Festivals.
Always have to be about you, Sancho.
Odyssée à 14702 prima.
Olivia Gisbert.
Avec Les Éternels, l'auteur de plateforme Still Life, The World, Touch of Sin, signe ici un film qui prolonge ses interrogations sur l'évolution de la société chinoise. Une histoire d'amour dans le monde de la pègre, des campagnes, dans une ville minière du nord-ouest de la Chine, la région natale du cinéaste. Alors la belle femme qui est incarnée ici par l'épouse du cinéaste qui tourne dans presque tous ses films écope de 5 ans de prison pour sauver son amant, le caïd de la région. Et quand elle revient, bah il l'a pas attendue. C'est un film d'amour, Michel Simon, mais un film d'amour qui quand même se tisse avec en toile de fond la vie en Chine, la question de la corruption dans le pays et de la criminalité. C'est un film un tout petit peu plus sage que d'habitude pour le réalisateur Jia Zhangke, et ça fait provoquer un peu de déception, voire déconcerter un peu ses fidèles. Est-ce que vous aussi ?
Ben pas moi. Moi je suis un fidèle et je trouve que c'est un film magnifique. Je pense que Jia Zhangke c'est un très grand cinéaste, et surtout sa qualité première pour moi, c'est, je suis allé en Chine 2 fois, mais c'est de faire découvrir son pays. C'est-à-dire qu'il il a un sentiment du lieu où on est, soit les campagnes, soit les villes. Et si on regarde les 10 films de fiction qu'il a réalisés, on a un extraordinaire portrait de la ville et de la campagne, des gens, des personnalités, des gens. Il y a une scène dans le train, par exemple, avec chaque personne, chaque passager a une vie à lui-même. Évidemment, il y a l'interprétation extraordinaire de sa femme, Zhao Tao, qui sera sûrement une des favorites pour le prix d'interprétation féminine. C'est une histoire d'amour en 3 étapes dans un contexte mafieux. Une femme qui est amoureuse d'un caïd qui fait de la prison pour lui, à sa place, et que néanmoins l'homme abandonne pour trouver une autre femme. Donc c'est un film assez déchirant et en même temps d'une qualité formelle tout à fait magnifique. C'est-à-dire il y a un style contemplatif chez lui sans être complaisant, et c'est pour moi un des 2 ou 3 meilleurs films que j'ai vu jusqu'à maintenant à Cannes.
Alors, Jia Zhangke n'est pas un réalisateur cinéaste clandestin, un peu à la manière de Wang Bing, qui est aussi présent dans cette 71e édition du Festival de Cannes la semaine passée. Wang Muyan, pour vous, c'est un film qui parle aussi de la Chine d'aujourd'hui, qui nous apprend à mieux connaître cette société telle qu'elle se passe.
Absolument, je pense que c'est une visite aussi, non seulement géographiquement, une visite de la Chine du Sud au Nord, mais aussi c'est une formidable visite de l'œuvre de Jia Zhangke, parce que dans ce film-là, on retrouve les traces de ses anciens films, Plaisir inconnu, le Still Life qui a eu le Lion d'Or il y a quelques années, et c'est surtout une très très beau portrait sur la relation couple en Chine dans ces conditions spéciales-là, qui est un petit peu spéciale, et ça raconte la chute de ce bandit et comment ils ont réussi de maintenir leur relation.
Bon, mais vous n'avez mis que 2 étoiles dans le screen international.
Oui.
Ça veut dire bof, un peu déçu?
Je suis plutôt déçu par la troisième partie. Je pense que la troisième partie, ça a déséquilibré les 2 parties.
Je vous en prie, continuez. On a des petites interruptions de séance, mais aussi voilà. Comme ça. Merci,
j'ai un petit peu réserve sur la troisième partie. Je pense qu'il y a déséquilibré les deuxièmes parties sur les 2 premières parties, surtout la première partie qui est très beau. Je trouve très belle, voilà.
Bon, on va écouter la rencontre entre Henri Leblanc et le réalisateur cinéaste Jia Zhangke pour ce film, donc Les Éternels. Juste vous préciser qu'aujourd'hui, s'il est cinéaste, et d'où sa présence à Cannes, le réalisateur a aussi été élu député de sa région natale, et c'est peut-être ça qui change un tout petit peu notre regard sur le film, voire son contenu. Question que lui a posée Henri Leblanc.
这是活活塞还是死活塞？
不知道。
能活塞会应该是最干净的了吧？
有可能。
就是经过高温燃烧，也会不就是最干净的？
这鬼地方成了炮灰也没人知道。
你有枪还怕别人把你灭了？
有枪的人才死得快呢。
Bonjour Jiazhangke.
Monsieur.
Derrière l'histoire d'amour entre Xiao et Bin, vous faites un portrait assez critique de la Chine et de sa modernisation à marche forcée. Est-ce que les hommes vont pouvoir trouver une place dans cette société ?
Le film commence en 2001, au début du siècle, pour terminer aujourd'hui en 2018. Donc ce sont presque 20 ans où il y a le plus grand changement en Chine, les plus grands bouleversements. Et je choisis ce moment avec des personnages tout comme nous qui témoignent à la fois la disparition et la perte des choses traditionnelles, mais sans connaître ce que nous réserve l'avenir. Et le personnage de Qiao Qiao est presque une sorte de gardienne des valeurs traditionnelles, hein, de ce qu'on a parlé par rapport à cette valeur qu'on nomme Tianhu, qui est à la fois la loyauté et aussi la droiture. Pour elle, c'est la dernière limite qu'on ne peut pas franchir pour maintenir la dignité d'exister.
Vos films sont un savant mélange de fiction et de documentaire. Est-ce que vous avez l'impression de faire un travail de sociologue, d'ethnologue, de documenter votre époque ?
J'ai l'habitude, pendant mes voyages, pendant mes déplacements, de prendre des notes vidéo en mode documentaire, comme une sorte de carnet de voyage, carnet de croquis. Et parfois, je revisionne ces images et ça me rappelle certains détails oubliés. À l'image de cette première séquence à l'ouverture du film, dans le bus. Et je ne me rappelle plus qu'on voyageait à l'époque dans des bus pareils. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir la mémoire de ces détails. C'est presque une sorte de confirmation que ces choses-là ont bien réellement existé.
Même si A Touch of Sin comportait déjà des éléments de violence, Les Éternels est votre premier film de genre à part entière. Pourquoi cette incursion dans le polar ?
Dans la première partie du film, nos protagonistes existent avant tout comme membres de la paire, ou bien qu'on peut dire aussi de la société souterraine, la société parallèle. C'est ce que signifie par le terme en chinois de Jianghu. Parce que Jianghu a une existence historique très importante. Cette société parallèle réunit des hommes et des femmes pour des questions de survie, pour des questions de résistance par rapport les temps de bouleversement ou par rapport les injustices sociales. Ils s'organisent. C'est une opposition souterraine par rapport au pouvoir en place, par rapport à la société mainstream.
Il y a une seule scène de violence où le caïd et son chauffeur se font tabasser à coups de casque de moto. Est-ce qu'il faut plutôt montrer la violence ou la suggérer, selon vous, Jiazhangke ?
Dans ce film Les Éternels, tout comme dans mon film Touch of Sin, j'ai montré de manière directe, frontale, la violence. Pour moi, ce sont des scènes, des plans très importants puisque dans le destin de ces personnages, c'est un point irréversible. Seulement en comprenant la violence que représente leur action, tout comme ces violences de bagarre avec la casse de moto, comme elles tirent avec l'arme à feu, on comprend qu'ils vivent un point de non-retour dans leur destin.
Avec le Taïwanais Wu Xiaoxian, vous êtes un des grands cinéastes du temps. Vos films se déroulent souvent sur des dizaines d'années. D'où l'importance des ellipses. Le choix du temps long dans une société où même les gangsters se filment avec leur portable, c'est un choix quasi politique.
Je pense que Quelque part, aujourd'hui, on oublie trop facilement d'où on vient, notre propre histoire. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'installer mon histoire dans un étendu de temps sur 20 ans. C'est le cas des Éternels. Et parfois, j'ai l'impression, en écrivant un scénario, je retrace aussi non seulement l'histoire des personnages, mais aussi l'histoire de la société chinoise. Et j'ai l'impression d'être un romancier, d'écrire une épopée de mon pays.
Pour changer le monde, pour transformer le réel, est-ce qu'il vaut mieux faire du cinéma ou de la politique ?
Ça dépend du talent de chacun. Pour moi, je serais peut-être plus efficace en tant que cinéaste. Évidemment, on saisit toute opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc en Chine, en plus de faire du cinéma, je tente des conférences, j'écris des articles, je fais des publications, j'essaye de m'exprimer par tous ces moyens. Je ne sais pas quels sont les moyens les plus efficaces, mais il faut faire en sorte que nos voix passent par tous les moyens.
Là, actuellement, vous êtes donc député. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer le système aussi de l'intérieur ?
Au moins, cette position me permet de faire passer certains messages aux gouvernants.
On retrouve beaucoup de motifs présents dans vos autres films. Les Éternels est-il en quelque sorte un film bilan ?
Ce n'est pas un bilan, mais un nouvel essai. Quelque part, je recompose un nouveau monde du cinéma avec le cinéma, les œuvres que je faisais avant et ma situation actuelle.
Merci, Jia Zhongke.
Merci. Merci beaucoup.
Et le film Les Éternels du réalisateur chinois Jia Zhongke sortira en salle en France tard dans l'année, ce sera seulement en décembre. France Culture, il est 13h22.
France Culture, la grande table, en direct du 71e Festival de Cannes.
Caméra.
Olivia Gesbert.
Et on retrouve tout de suite la séquence des critiques avec Michel Simon en dialogue aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, avec Wang Muyan, correspondant à Paris et ici à Cannes du magazine Elle Mène, qui est avec nous pour évoquer deux films. On va commencer avec vous, Mian Wang, et Les Trois Visages de Jafar Panahi, présenté en sélection officielle. Ces trois visages d'un réalisateur iranien assigné à résidence, qu'on n'a donc pas pu voir monter cette année le tapis rouge. Il fait partie des grands absents. Le film vous a touché ?
Oui, oui, ça m'a beaucoup touché même, que je trouve que c'est un très très beau voyage dans son pays, même dans son pays qui est une région, je crois, minoritaire, et qui le film, il y a une forme de assez intrigant qui nous guide et qui nous exprime les envies des jeunes et les envies de faire du cinéma et l'envie de survivre à la condition de dans leur pays, et je trouve que
c'est un film politique pour vous aussi.
Je pense, oui, il y a un aspect politique assez fort, mais c'est pas ce qui me touche le plus. C'était plutôt les sentiments humains et comment les rapports entre les gens qui m'ont beaucoup plus touché.
Michel Simon, Jafar Panahi, un cinéaste assigné à résidence, donc resté en Iran, un cinéaste aussi interdit de cinéma, dit-on, dans son pays. Alors comment ce film est né ?
Oui, enfin moi j'ai beaucoup de soupçons sur tout ça. C'est-à-dire, je pense que Panahi joue aussi de son côté proscrit, parce que ce film visiblement a été tourné en très grande liberté. Il va tourner aux confins du pays avec une équipe technique importante. Au début, oui, de son bannissement, il tournait dans sa chambre, dans une pièce. C'était des films très claustrophobes. Là, pas du tout. Il tourne vraiment. Et je pense que le gouvernement iranien et Panahi se satisfont tous les deux de cette situation du persécuté, parce que c'est vrai que s'il venait à Cannes, il aurait moins d'audience, peut-être moins d'aura que le fait de rester chez lui. Alors, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est un très grand cinéaste. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ce film est une sorte de concentré de cinéma iranien. C'est-à-dire que, et je pense même que c'est un dialogue non dit avec Abbas Kiarostami, le grand metteur en scène, le plus grand cinéaste iranien qui est mort malheureusement. Mais on retrouve tous les éléments du cinéma de Kiarostami, comme si Panahi discutait avec ce mort, c'est-à-dire le suicide, comme dans Le goût de la cerise, c'est-à-dire le film dans le film, c'est-à-dire close-up, c'est-à-dire la voiture, comme beaucoup de films de Kiarostami. Donc on a une sorte de résumé, mais magnifiquement réalisé. Le cinéma iranien est un cinéma très conceptuel. C'est un cinéma qui mélange l'extrême sensibilité des metteurs en scène. Et Panahi est très sensible, effectivement, au visage, est très sensible à la réalité des choses. Et en même temps, il y a toujours un côté assez abstrait dans leur cinéma, de réflexion philosophique. Et je trouve que ce film est très réussi.
Donc il vous manque pas, à l'un et à l'autre, un petit goût de transgression, justement. Vous trouvez que le film est à l'image du réalisateur ou de la figure du réalisateur qu'on porte ici à voix haute?
Absolument.
D'accord. Oui. Vous, pareil. On passe à un deuxième film que vous aviez envie l'un et l'autre d'évoquer, celui d'une des réalisatrices présentes en compétition. C'est Alice Rohrwacher avec son Heureux comme Lazaro.
Lui è Marchese Tancredi de Luna, è padrone dell'Inviolata.
Gli esseri umani sono come bestie, animali. Liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù.
Les deux pieds dans la métaphore avec ce film, Michel Simon.
Alors, le film, oui, on a vu un film d'elle qui a eu le Grand Prix à Cannes il y a 3 ans, Les Merveilles. Alors, on retrouve le côté champêtre, les paysans, etc. C'est un mélange de néo-réalisme. Là aussi, c'est dans une tradition comme Panahi. Il y a un mélange de néo-réalisme italien, évidemment l'Arbre au sabot d'Olmi, mais on n'atteint pas du tout les sommets de l'Arbre au sabot qui vient de mourir. On sait que Olmi vient de disparaître. Donc, il y a l'Arbre au sabot et puis un côté magie, un peu comédie napolitaine, genre Miracle à Milan de Sica. Voilà, c'est une fusion de ces deux éléments. Moi, j'étais amusé, j'étais touché par ce personnage, effectivement, le héros, heureux comme Lazaro, qui est une sorte de garçon de ferme, dont on se moque, etc. C'est plein de bons sentiments, c'est plutôt bien photographié, bien filmé. Je ne sauterai pas au plafond, je regretterais que pour des raisons opportunistes et idéologiques, il y ait une palme d'or, par exemple, à ce film, uniquement parce qu'il faudrait que ce soit une femme, dans l'année de la femme, qui ait la palme d'or. Cela dit, le film est tout à fait respectable.
Ça, c'est les grands débats du moment. Hein. Est-ce que si une femme a aujourd'hui la palme d'or, ce soit parce que c'est une femme.
Il ne faut pas que ça se retourne contre les femmes. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça se retourne contre les femmes. On a vu le film français, ça crée un malaise tout de même, parce qu'il y a tellement de bons films qui
sont
prêts.
Mais on a vu aussi beaucoup de films réalisés par des hommes qui sont quand même franchement en dessous de ce qu'on peut attendre.
Mais bien sûr, les hommes font
Michel
de mauvais films, mais les femmes aussi.
Ouais. Votre avis sur ce film, Myon Wang?
Je pense d'abord, c'est plus important ce qu'on fixe sur la qualité du film et on ne distingue pas qu'il soit un homme ou une
femme. Le genre
du réalisateur.
Voilà.
Et ce film Lazaro, pour moi, c'est une très belle fable sur la modernité et sur la malaise de la modernité surtout et aussi sur l'innocence et l'abus d'innocence et il est très beau, mais je pense que le rapport des classes dans le film, c'est un petit peu caricatural, qui est un petit peu figé, et en même temps, le côté magie qui m'a attiré.
Et c'est un film européen, donc on termine cette sélection des critiques avec vous en revenant ici. On se retrouvera demain, Michel Simon, pour une nouvelle séquence des critiques. Merci à tous les deux d'être passés autour de cette grande table. Merci à toute l'équipe de l'émission qui l'a préparée, qui a programmé à Paris. Salutations à ceux qu'on ne voit pas, mais qui travaillent aussi pour faire de cette grande table spéciale Cannes un programme, une programmation complète. Ici, à Cannes, avec Henri Leblanc, à la technique et au reportage Georges Thau et Gilles Gallinaro. À la technique aujourd'hui en studio, Sandrine Malon à Paris, Emmanuel Morse d'Incan, à Cannes et Emmanuel Morse d'Incan à Paris, je m'y perds dans ses allers-retours, et à la réalisation, Somanina. Bref, un grand, grand merci à tous et rendez-vous demain pour une troisième et dernière grande table spéciale Cannes.